comment ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous nous retrouvons pour ce mois d'août avec Camille Fabre, que nous avons la joie de recevoir. Nous allons donc vous présenter cette écrivaine locale qui a déjà écrit plusieurs livres et elle va se présenter, bien sûr, et ensuite nous vous parlerons de ses ouvrages. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Et donc, bonjour Camille.
Bonjour.
Pour commencer, Camille, on va vous laisser un petit peu la parole.
Alors déjà, je voulais savoir comment vous avez connu Radio Margeride, en fait, et comment vous avez amené à nous appeler. Et en fait, nous, on est ravis de vous recevoir.
Bonjour. D'abord, déjà, merci de m'avoir reçue. Et puis, je connais Radio Margeride parce que je suis de SOG, et à SOG, on écoute Radio Margeride.
Ah, très, très bien.
D'accord, très bien.
Souvent, il y a même des personnes pour qui c'est un rituel de regarder, d'écouter Radio Margeride.
Ah, ben voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui. Donc, Camille, donc vous êtes agro-économiste de formation. Vous vous intéressez à l'analyse des transformations de la société rurale. Donc, vous avez été pendant 10 ans présidente aussi de l'association Manchauvet Archéologie et Patrimoine. Et vous avez cofondé en 2018 le Labo des Patrimoines. Pouvez-vous un peu nous expliquer votre démarche, en fait, votre parcours qui nous a amené aujourd'hui à parler de vos livres?
Oui, effectivement. Bon, déjà, moi, j'ai passé tous mes diplômes universitaires en travaillant. J'ai fait un petit peu à l'inverse des autres.
D'accord.
D'habitude, on commence par l'école et tout ça, puis on rentre dans la vie active. Et moi, j'ai commencé par la vie active et puis je suis revenue à la faculté. Donc, avec des objectifs assez précis. De travail et puis de recherche. Parce que, à la fois, j'avais envie de travailler en milieu rural, mais aussi de comprendre ce milieu rural dont j'étais issue, puisque mes parents sont agriculteurs. Et donc, ça s'est venu un petit peu automatiquement. Alors, l'idée du premier livre, c'est, en fait, lorsque mon père est décédé à la fin des années 80, il y avait à la maison des papiers de famille. Et forcément, papiers de famille, bah. Qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà.
Donc on regarde, on épluche,
découvre.
On découvre, on essaye de comprendre, on a un peu de mal, enfin, petit à petit, on y arrive. Et là, j'ai découvert qu'en fait, mes ancêtres étaient des laboureurs de la seigneurie de Méron.
Ah oui,
d'accord.
Vous êtes remontés, oui.
Donc voilà, et les plus anciens documents dataient de 1570. Et puis donc j'ai rencontré là-dessus un petit peu Jean Richard, qui était un petit peu l'historien local, la référence locale là-dessus. Il m'a orienté vers un de ses amis qui possédait le terrier de Méron.
D'accord.
Alors le terrier de Méron, c'est un grand document qui est établi par un notaire à la demande du seigneur, pour répertorier l'ensemble de ses propriétés.
D'accord.
Et ça, village par village, etc. Si bien que j'ai pu, dans ce document, j'ai pu retrouver, grâce aux papiers de famille que j'avais et les noms qui étaient de mes ancêtres, parce qu'il y avait la maison, puis des ancêtres, le nom a évolué.
Oui.
Donc, à partir de ça, et de ce terrier de Méron, j'ai pu retrouver l'entièreté de l'exploitation agricole.
D'accord.
Et l'entièreté des exploitations agricoles des autres gens du village et des villages aux alentours.
C'est les seigneurs et paysans entre Auvergne et Gévaudan.
Voilà.
C'est donc l'évolution de cette seigneurie dont vous parlez, là, entre le XIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et même ça déborde un peu jusqu'en 1820, puisque toute la vente des terres de la seigneurie de Méron ont été passées entre 1815 et 1820. Et c'est un marchand de SOG, avec des notaires de SOG, qui l'ont fait, qui ont possédé ça,
ouais.
Et qui étaient en contact avec des avocats parisiens. Le marchand de SOG, c'était Jérôme Labretoigne, sur lequel j'ai travaillé par ailleurs sur ses comptes, qui permet de comprendre pourquoi aussi j'ai écrit d'autres livres.
D'accord. Et alors, donc, c'est vraiment historique tout ça. C'est vraiment réel, c'est où vous l'avez romancé après?
Ah non, absolument pas. Celui-ci est purement historique, c'est une monographie seigneuriale qui permet de comprendre comment d'un mât sont agrégés d'autres mâts, des villages, ensuite une petite seigneurie, et ensuite qui s'est agrandie, et puis par alliance qui s'est développée au niveau régional. D'abord au niveau local, ensuite au niveau régional, et puis à devenir une baronnie lorsque l'héritière en titre a épousé Domangeville.
Ah, Domangeville, oui, d'accord.
Qui était un seigneur lorrain.
Oui, c'est vrai.
Qui est un seigneur lorrain, il vivait à Paris et qui n'était plus présent sur Mérone, parce que Mérone c'était le bout de terre là-bas, au fin fond, et qui n'était plus présent là et qu'on avait confié à un fermier général. Et puis, bien sûr, tout ça a eu des conséquences dramatiques sur les gens qui s'endettaient de plus en plus, qui avaient du mal à payer, etc.
D'accord. Et donc, l'histoire de votre famille, c'est parce qu'ils ont racheté à un moment donné, ou est-ce qu'ils étaient sur ces terres-là pour une raison X ou Y
Au moment de la Révolution française, ils étaient censitaires. Ils étaient laboureurs censitaires de cette seigneurie.
C'est-à-dire qu'ils étaient...
C'est-à-dire qu'ils avaient une location longue durée.
Ouais.
Un amphithéâtre qui s'appelle aussi Pagésie. Et au moment de la Révolution française... lors de l'abolition des privilèges, ceux qui cultivaient leurs terres et qui étaient censitaires, donc se sont retrouvés propriétaires
de leurs terres.
Se sont retrouvés propriétaires. Donc c'est à partir de là qu'en fait est arrivée dans la région la petite propriété qu'on a connue par ailleurs, avec des très très petites parcelles, des très petites exploitations agricoles, et puis d'autres qui étaient beaucoup plus grandes.
D'accord. Votre premier livre, c'est historique, toujours en partant bien sûr de ces fameux papiers que vous aviez retrouvés.
Oui. Et donc, je vois que dans ce livre, vous parlez aussi d'une dame. Moi, en fait, je suis allée visiter le reste de sa maison dans un petit village où il n'y a plus personne qui habite, je crois. C'est cette femme-là qui est un peu troubadour. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire son nom, parce qu'elle est connue?
Alors, Na Castellosa.
Voilà.
Alors, Na Castellosa, c'est une troubadoureste, une troubaritz. Qui était donc à Mérone, qui a épousé un truc de Mérone, qui a fait la troisième ou la quatrième croisade avec Dauphin d'Auvergne, qui était également troubadour. Et c'est par lui d'ailleurs qu'on a un petit peu la connaissance d'elle et de lui.
Ah d'accord.
Parce qu'en fait sur elle, on a des icônes qui sont disponibles à la BNF, on a ses textes. Elle a écrit 3 poèmes et il y en a un quatrième qui lui est attribué, qui est très étudiée, cette femme, mais on ne connaît pas ses origines. Au XIXe siècle, il y a le comte de Rochemure qui s'est attribué un peu la paternité, je dirais l'origine de cette dame en disant, voilà, elle est dans le Cantal, dans quelle partie, enfin... En fait, quand on regarde la géographie, c'est guère possible, quoi.
D'accord.
Donc on est toujours à la recherche de
ses origines.
De ses origines. Et c'est un de mes sujets de prédilection, entre autres.
D'accord.
Parce que c'est une femme très intéressante, en fait.
Oui.
Oui. D'accord.
Elle était lettrée.
Elle était lettrée. Et puis, généralement, c'est dans cette période d'amour courtois. On courtise des femmes mariées ou on fantasme dessus, mais sans
passer à l'acte.
Mais sans passer à l'acte.
Voilà.
D'accord.
Mais là, justement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, c'est elle qui courtise un homme.
Ah, elle était avant-gardiste, alors.
Un peu.
Oui.
Un peu. Et puis, son mari était quand même décrit par le dauphin d'Auvergne comme étant un soudard de la pire espèce, quoi.
Ah ouais, d'accord.
C'était pas franchement quelqu'un de très, visiblement, très sympathique.
D'accord.
Et quand on connaît Mérone, c'est vrai que...
En fait, moi, j'ai fait une rando, je suis passée à Mérone, et donc celui qui conduisait la randonnée, il nous a parlé de cette dame.
Oui.
Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a parlé quand vous...
Oui, mais elle est très connue, il y a des recherches. Oui,
c'est ça. Est-ce qu'elle habitait vraiment là? La question est posée, mais...
Ça, on ne sait pas.
Oui. Voilà.
La question, elle est posée. Pourquoi pas? Elle y a sûrement séjourné, ne serait-ce que par intermittence.
D'ailleurs, il y a un panneau, je crois, le chemin du nom de cette dame, là.
Oui,
qui est difficile à dire.
Oui, Na Castellosa.
Voilà.
Bon, avec des origines. Alors, ça veut dire, Na Castellosa, ça veut dire la dame du château.
Voilà.
Ah oui.
Donc ça peut être...
trouver tout, de, un peu de
qui,
tout.
Qui, oui, est, qui ouais. est n'importe qui.
Enfin, c'est ça, voilà.
On ne sait pas.
Oui, on ne sait pas. D'accord.
Écoutez, je pense que vous apprendrez plein de choses hein, en lisant le livre de Camille Fabre, Seigneur et paysan, entre Auvergne et Gévaudan. Alors, en édition, il y a marqué Labo des patrimoines. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors Labo des patrimoines, c'est une association qu'on a créée avec mon fils et une de ses belles-sœurs, justement pour nous servir un peu de base pour faire nos travaux de recherche respectifs.
D'accord.
Puisque lui, il travaille plutôt sur mon chevet et il est en train de publier des choses sur mon chevet. Et puis mes travaux à moi.
D'accord.
Et pour pouvoir les publier.
Okay. Ouais,
voilà, ça nous sert un peu de cadre juridique à ça.
Très bien. Nous allons faire une petite pause musicale avant de vous présenter le second livre de Camille Fabre.
Ben, on peut mettre un petit peu de la symphonie pastorale Beethoven.
Très bien.
Eh ben, très bien. Voilà, un peu de musique classique. Alors, bonne écoute et à tout de suite. J'espère que cette pause musicale vous aura réjoui. Alors, après tout ça, nous allons reprendre avec Camille Fabre. Donc, le deuxième livre. Vous disiez tout à l'heure que le premier livre, vous avez ouvert une porte pour, peut-être sur l'écriture, mais aussi peut-être sur les thèmes. Alors, dites-moi tout.
Tout à fait. Ben, en fait, en travaillant sur le premier livre sur Méron, et notamment en faisant des recherches sur comment cette seigneurie s'est terminée, elle s'est terminée après que Jean-Baptiste Nicolas de Domangeville a été décapité en 1793. C'est sa sœur qui a hérité de la seigneurie de Méron et qui l'a vendue.
Ah.
Qui a cherché à la vendre parce que donc toute la seigneurie avait été donnée aux paysans. La partie castrale, qu'ils avaient en propriété directe, celle-ci, elle était gelée et elle était
réquisitionnée, non ?
Voilà, elle était réquisitionnée et qui a fait, ça a donné lieu à des procès au puits et ils ont gagné de pouvoir récupérer cette partie-là de la seigneurie.
D'accord, intéressant.
Et suite à ça, bon, il y a eu cette dame est décédée jeune et c'est son fils qui en a hérité et qui l'a revendu. Ça a été revendu aux enchères à Paris. Mmh. C'est un notaire de Paris, M. Magloire, qui l'a acheté. Et ensuite, bon, il a voulu la revendre en la découpant en morceaux,
ah oui.
en la portionnant,
oui.
de telle façon, parce que ça lui a rapporté davantage d'argent
oui.
à portionner.
Oui.
Bien sûr.
Et les personnes qui sont occupées donc, de la revente de ces terres, c'est M. Torrent, qui était receveur de l'enregistrement à Sogues et qui était notaire par ailleurs, et Jérôme Labretoigne, qui était marchand.
D'accord.
En regardant un petit peu les archives disponibles, il se trouve que ce Jérôme Labretoigne, on dispose d'un fonds documentaire sur lui assez important. Il a 4-5 cahiers qui sont, moi au départ j'y allais en me disant c'était des petits cahiers de brouillon, quelque chose comme ça, de tout petit. Puis alors quand on m'a sorti les archives, c'était
des tomes quoi, vraiment
voilà. C'est des cahiers, ils pèsent lourd quoi, ouais. Qui sont très longs, qui sont larges, qui sont épais, il y en a 5 comme ça, donc j'ai tout scanné, tout travaillé, il avait 1000 clients.
Ah oui, d'accord. Oui.
1000 clients sur Sog et la région, dont aussi largement Lozère, un petit peu le Cantal et tout ça. Quoi. Il débordait largement. Et ce monsieur est intéressant parce que dans ses comptes, ben, il suivait les gens.
Ah oui.
D'accord, oui.
Oui, oui, toutes ces histoires familiales.
Donc finalement, il vous raconte aussi un peu la vie de chacun. Quoi.
Voilà. Alors, il suivait les personnes. Alors, on avait des remarques sur l'un, sur l'autre. Et puis, c'est là-dessus où je me suis rendu compte qu'il y avait Catherine.
Ah, voilà, c'est voilà. Donc le deuxième livre de Camille donc, Fabre.
Qui, elle, a réellement existé. Ça s'est réellement produit.
Alors, on va vous présenter, attendez Camille, Catherine Jouve, née Torrent,
oui.
De 1778-1851. C'est heures et malheurs d'une vie de paysanne des monts de la Margeride. Voilà. Donc là, vous avez découvert. Alors, elle était donc mariée, elle était avec ce monsieur
Au départ, cette jeune femme est originaire de la Fagette.
Oui.
Donc, c'est en Loire, ça, à côté de
Sog. C'est la commune de Venteuge.
Ah oui,
ah,
d'accord.
Venteuge, oui, d'accord.
Et les parents étaient métayers du notaire bonhomme, qui lui-même était censitaire à l'époque, du seigneur de la Fagette.
D'accord.
Donc, ils étaient habités à un château. Et donc, à la Révolution française, c'est monsieur le bonhomme, le notaire, qui a hérité. Donc, de fait, il s'est retrouvé propriétaire du château et des dépendances du château.
Ah, d'accord.
D'accord,
ouais.
Parce qu'il était censitaire auparavant. Et puis, monsieur Torrent, c'était un cadet de famille, originaire du village d'à côté qui s'appelait La Vacheresse. Ses parents étaient censitaires aussi, de l'abbaye des Chazes. Son père, c'était un marchand, un agriculteur, mais aussi marchand de bestiaux.
Oui.
Lui, ça ne l'intéressait pas trop. Il a laissé ça à son frère. Il est allé... Bon, voilà. Il a rencontré Marguerite, la mère de Catherine, qui était veuve. Donc, ils sont installés sur cette métairie. Et Catherine a été leur seul enfant.
D'accord.
Et donc, à un certain moment donné, il fallait bien la marier. Parce que...
il fallait marier les filles.
Il fallait marier les filles. Et puis, de l'autre côté, y avait Joseph, qui était un laboureur aussi, qui était orphelin, et qui était élevé par sa tante, qui avait été béate. Et donc, Joseph, aussi, il était l'aîné d'une fratrie de 7 garçons, qui n'avait pas de filles. Sa tante, elle commençait à vieillir. Il fallait donc qu'il trouve une femme pour pouvoir la seconder. Et voilà un petit peu... Ouais,
comment ils se sont mariés.
Comment ils se sont rencontrés par le biais du curé et tout ça. Parce que je pense
donc Catherine est rentrée dans la famille de Joseph, si
voilà,
j'ai bien compris.
Catherine est rentrée dans la famille de Joseph. Ouais. Au milieu.
Et quelle histoire, c'est ça.
Et quelle histoire, il est arrivé l'état d'histoire.
Oui, parce que ce livre retrace vraiment le parcours et les combats de cette femme.
Oui.
Qui est donc pendant la période de la Révolution française.
Oui, voilà. Et après.
Et donc, dans ce livre, le lecteur est invité à suivre vraiment le destin de Catherine, qui...
qui est seule comme femme, d'ailleurs.
Oui, oui.
C'est la seule femme dans cette famille où il n'y a que des garçons.
C'est la seule femme dans cette famille. Il n'y a que des garçons. Et donc, en sachant qu'elle est rentrée très jeune, et puis elle a eu son premier enfant, elle avait 20 ans, donc elle est rentrée à 15 ans, elle s'est mariée à 15 ans, elle a eu son premier enfant à 20 ans. Donc ça veut dire que pendant un temps, moi j'ai supposé que la tutrice avait bien chapitré son fils adoptif pour qu'il la laisse tranquille. Quoi. Enfin,
d'accord, oui.
Et puis là-dedans, elle se crée des animosités au niveau de la famille, de la fratrie.
Avec les frères, tout ça, oui.
De la jalousie, d'envie, puis aussi de l'amitié, puis comme ça peut être dans n'importe quelle famille en fait.
Donc c'est vraiment un regard sur la condition féminine de cette époque.
Oui.
Qui n'était pas facile. Hein.
Le contexte historique particulier, oui.
Alors là-dessus, ensuite, elle est encore jeune, son fils, il est mineur, il a à peine 15 ans, et Joseph, il décède.
Ah, et elle se retrouve à la tête de la propriété,
Il décède, Joseph, il a des tas de dettes. auprès justement du marchand La Bretoigne, mais pas exclusivement, auprès d'autres. Et là, elle arrive à négocier ses dettes.
Ah d'accord.
On retrouve des traces de négociation de ses dettes. Elle les rembourse petit à petit. Elle arrive à rétablir la situation de cette exploitation agricole.
Bravo, ouais.
Et puis ensuite, va se poser, une fois qu'elle l'a bien rétabli, va se poser la question de la transmission de cette exploitation à son fils.
Ah.
Mais vous comprenez bien qu'une femme comme Catherine, qui est indépendante quand même, qui a dû se battre pour cette exploitation agricole, ne peut pas transmettre son exploitation comme ça.
Eh oui.
Sans déchirement. Oui, d'accord. C'est elle qui a du mal, c'est pas les autres qui l'en empêchent. C'est elle qui a du mal à laisser ça.
C'est elle qui a du mal à faire ça. C'est elle qui a du mal à laisser cette exploitation à son fils. Alors son fils, il trouve des biais, il dit, bah, il faut que je fasse mes preuves. D'accord. Alors il va louer une exploitation avec les complicités de saison.
Oui, parce qu'elle est encore jeune, cette maman-là.
Oui, c'est ça.
Donc elle veut encore travailler.
Mais il n'empêche qu'il veut se marier, le fils. Quand il a 25 ans, il est majeur, il veut se marier. Et puis, ma foi, comment faire? Pour se marier, il faut bien qu'il fasse ses preuves, qu'il ait du terrain, qu'il ait des choses. Ouais. C'est des thèmes qui sont très, je dirais, très actuels, parce que ce sentiment-là, se sentir dépossédé quand on a...
Qu'on est obligé de transmettre quelque chose.
Je pense que c'est quelque chose qui est très, très humain et très universel, je dirais.
Très bien. Bon, ben merci Camille. Donc on vous rappelle ce titre, Catherine Jouve, née Torrent, heures et malheurs d'une vie de paysanne des monts de la Margeride.
Donc c'est dans un contexte historique. Intéressant. Hein. On va apprendre plein de choses en lisant ce livre.
Oui, voilà. Tout à fait.
Voilà, c'est ça qui est intéressant.
C'est écrit comme un roman, donc n'hésitez pas, c'est très agréable à lire.
Il y a beaucoup de choses sur les pratiques agricoles aussi,
voilà.
Sur tout ça.
Ah, ouais. Evelyne, on va faire une petite pause musicale.
Comme c'est Camille qui choisit.
Ah, c'est Camille qui choisit.
Alors là, je pense à Dvorak.
Oui.
La symphonie numéro 9.
Après cette courte pause, nous allons attaquer le troisième livre qui est Chronique d'une ambulancière en Margeride, toujours bien sûr de Camille Fabre. Alors là, nous allons passer dans un autre registre
siècle.
Peut-être.
Oui.
Et puis voilà. Alors allez-y.
Nous changeons de siècle.
Aussi.
Nous changeons de siècle. Là, on est sur du 21e siècle, puisque j'étais sans boulot. J'ai commencé à travailler comme ambulancière, chauffeur VSL dans une entreprise qui s'appelait les Ambulances du Gévaudan. qui a fait faillite. Donc, avec une collègue, on a racheté le fonds de commerce et on a monté une entreprise.
D'accord.
J'avais 50 ans. Bon, et je me suis retrouvée après 2 ans d'exercice toute seule avec des salariés, puisque dans une entreprise ambulancière, eh bien, il y a des véhicules, il y a forcément 2 personnes dans une ambulance, il y a forcément des salariés.
Oui, des salariés, forcément.
C'est pas...
Je suis toute seule et je prends mon volant et j'y vais, quoi. Voilà,
c'est pas ça.
Non.
Et puis, c'est de la formation, parce qu'il a fallu se former avant. Je me suis formée dans la région parisienne, et voilà. Et donc, au fil de ces transports effectués, je me suis rendu compte d'une situation, enfin différentes situations de familles qui ont eu du mal à s'adapter à la transformation de l'agriculture dans l'après-guerre, à la politique des structures, à la mise en place de la politique agricole commune, à ces exploitations agricoles.
Il fallait produire beaucoup, c'était le plan Marshall.
Il fallait produire beaucoup, il fallait se moderniser, il fallait... Et il fallait aussi, c'était une agriculture qui était faite pour des couples.
Ah oui, oui.
Et non pas pour des hommes seuls. Dans une situation de l'après-guerre où il y a un exode rural très important, où les femmes, elles sont parties. Puisque à Sog, 50% des femmes étaient parties.
D'accord.
C'est ma génération.
D'accord.
On est allé ailleurs, on est allé en ville, on a travaillé, elles ont travaillé en usine, dans les services, etc. Elles sont devenues infirmières, instites.
Bon.
Et donc, les hommes se sont retrouvés seuls sur ces exploitations agricoles, et parfois des exploitations agricoles qui ont eu du mal à évoluer, qui ont eu du mal parce qu'elles étaient trop petites ou parce que... parce qu'on n'avait pas envie que ça évolue non plus. Et donc, et aussi parce que les mères, parfois, surtout lorsqu'elles étaient propriétaires des terrains, s'opposaient à ce que la belle-fille vienne travailler ou s'opposaient à ce que les terres soient louées.
D'accord.
Donc, ça a créé des situations dramatiques d'hommes qui se sont retrouvés prisonniers de ces situations-là. Ou pour certains, dans certaines exploitations où justement on était propriétaire, où cette notion de terre, de patrimoine est fondamentale, surtout quand on est dans des situations de précarité, surtout quand on ne sait pas trop bien où on va, elle devient obsessionnelle.
Ouais.
Et des jeunes ont été amenés à quitter leurs études, à revenir sur l'exploitation pour être là, pour aider la mère.
Pour la pérennité de l'exploitation.
Ouais.
Et c'est à travers vos voyages d'ambulancière, en fait,
transportant
des malades, que vous découvrez tout ça, c'est leur histoire.
C'est en partie. Parce que ça, je l'avais découvert un petit peu auparavant, quand j'avais vendu de l'assurance vie dans le pays de Sog, et où j'avais, avec mes fiches, je prenais un village du début jusqu'à la fin, je passais tout le monde pour pouvoir vendre mon assurance-vie, quoi.
Bien sûr.
Donc, de fait...
Vous avez découvert le territoire, vraiment.
De fait, j'ai découvert le territoire, situations, des choses comme ça. Mes travaux à Paris, j'avais gardé des contacts avec l'INRA, et on m'a dit, justement, il y a un programme qui est en train de se mettre en place à l'INRA, qui s'appelle « Sur les nouvelles fonctions de l'agriculture ».
D'accord.
Et donc, j'ai été intégrée dans ce processus-là, et Sog et la Haute-Loire ont été mon terrain de recherche.
D'accord.
D'accord. Avant de devenir ambulancière. Il y avait des notes, il y avait une connaissance, et qui a été renforcée par tous ces dialogues, toutes ces connaissances de situations que les gens avaient vécues et que j'ai essayé de transcrire.
D'accord. C'est intéressant tout ça, parce qu'on a tellement l'impression que les fermes, les propriétés se passent comme ça, de père en fils, ou simplement et facilement, entre guillemets. Maintenant, c'est encore terrible, parce qu'il y a les droits d'héritage qui sont tellement énormes que les agriculteurs ont du mal. Mais à l'époque, je pensais que c'était... beaucoup plus sain, quoi. Et finalement, je découvre avec votre livre qu'il y avait toute une... c'était pas si simple que ça.
C'est pas si simple que ça.
Ouais.
C'est pas si simple que ça. Et puis, par ailleurs, les mères, lorsqu'elles sont en situation de précarité, lorsque le mari il est parti, ouais. Lorsque le fils est seul sur l'exploitation sans être marié, eh ben, c'est un peu le bébé qu'on garde, qu'on veut conserver. C'est,
Donc il n'a pas le pouvoir qu'il devrait avoir sur sa terre, c'est sa mère qui reste,
qui reste
maîtresse.
Et puis là-dessus, c'est greffé en plus. Un autre phénomène, c'est qu'avec les revendications des femmes qui étaient tout à fait justifiées, des droits à la retraite, ouais. À la mort du mari, c'est elles qui deviennent agricultrices.
Oui.
Et le fils, bien qu'il soit adulte, eh ben, il est toujours aide familiale.
C'est ça.
D'accord.
Il est toujours sans statut et sans revenu.
Voilà. Il est toujours à la merci de maman, quoi, voilà. Finalement.
Ouais. Et parfois, moi, j'ai vu des hommes qui n'avaient même pas de compte bancaire. C'était le compte bancaire de maman.
Ah, ouais. Et c'est pas si vieux.
Et c'est pas si vieux que ça.
Eh non, 20e siècle, c'est pas vieux, quoi.
Non, ah ouais. C'est pas vieux.
Et c'était généralisé en France, quoi. C'était pas que dans nos régions.
Je pense que ça a dû se passer ailleurs aussi.
Voilà, en ruralité.
Chez nous, c'était en Lozère, c'était aussi ça. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, on a beaucoup parlé des agriculteurs qui cherchaient des épouses, en fait. C'est assez récent, quand même. Oui.
Et puis là, donc, c'est l'histoire de ces agriculteurs fait référence aussi avec Jacqueline, qui est le fil directeur de mon livre, qui, elle, est ambulancière, qui fait la connaissance de Sébastien, est co-gérant de la société d'ambulance, qui s'appelle Montagne Ambulance, et qui, lui, est obligé de quitter son travail d'ambulancier parce que le père est décédé et que la mère se retrouve toute seule sur une exploitation d'élevage bovin. Ah. Et ça en montagne.
D'accord.
Donc il faut qu'il aille aider maman.
Donc il quitte son boulot pour aider maman. Et voilà que Jacqueline arrive là au milieu. Donc pose cette question qui devient... pour Jacqueline, se rend compte, un peu de tout ça, parce qu'il y a eu l'histoire des parents de Jacqueline, de l'oncle de Jacqueline qui a été confronté à ça. D'accord. Et puis, donc, de fait, ça devient son problème aussi.
Pour que son mari soit vraiment légitime.
Futur compagnon soit légitime.
C'est ça. Voilà. Ah, très intéressant. On découvre plein de choses avec vous, Camille.
J'essaye d'apporter ma petite pierre, parce que j'étudie, je recherche, j'adore ça, mais aussi, quel intérêt si on ne peut pas partager par ailleurs.
Oui, c'est vrai, c'est important le partage, tout à fait. On va rappeler, Evelyne, les trois ouvrages que vous nous avez...
Déjà, celui dont on vient parler, donc, c'est « Chronique d'une ambulancière à Margeride ».
Alors, le premier, donc, qu'on vous avait présenté, c'est « Seigneurs et paysans entre Auvergne et Gévaudan ». Et le second...
Catherine Jouve, donc « Née Torrent, heures et malheurs d'une vie de paysanne des monts de la Margeride ».
Eh bien, merci beaucoup, Camille, d'être venue jusqu'à nous, de nous avoir présenté ces trois ouvrages. Et on vous souhaite bon vent et on vous souhaite un bon mois d'août et à la rentrée. Au revoir.
Merci. Au revoir. Au revoir.
Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète? J'te répondrai, ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Et bien.